السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد. On s'est arrêté la dernière fois au préparatif de Médine pour sortir avec l'armée vers la bataille de Uhud. On a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une lettre secrète de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, son oncle, le samedi. Et que du samedi jusqu'au vendredi, il a mobilisé, il a consulté, et finalement ils ont décidé d'aller à la rencontre des ennemis qui se dirigent droit vers la ville de Médine, et de ne pas qu'ils viennent dans Médine pour assiéger la ville ou pour attaquer les Médinois à l'intérieur. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plutôt proposé de rester à Médine, mais la majorité des compagnons qu'il a consultés considéraient qu'il était préférable de sortir. Et donc il va finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pencher pour l'avis de la majorité. On a également raconté la dernière journée à Médine, comment elle se passe. Donc la dernière journée à Médine, la veille du départ pour la bataille de Uhud, c'est un vendredi, puisque la bataille de Uhud va se dérouler le samedi matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre la route vers Uhud, ça on ne le sait pas encore, les compagnons ne le savent pas encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur dit pas tout de suite, il leur dit de se préparer pour le vendredi, comme s'ils allaient sortir le vendredi, mais ensuite il va les faire attendre. Non. Et en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande donc de se préparer pour le vendredi. Donc il fait la prière du Jumu'ah. On sait également, selon certains historiens, qu'il prie, qu'il préside la prière mortuaire d'un de ses compagnons qui est décédé, Malik ibn Amr, radiyallahu anhu. Et ensuite, arrive la prière de l'Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam préside la prière de l'Asr à la mosquée. Et il voit que les compagnons de ce qu'on appelle l'Awali, les auteurs qui vivent autour de Médine, et ils avaient rendez-vous ce jour-là à Médine pour partir, ils se rendent compte qu'au moment de l'Asr, ils sont là. Naham. Et donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui, il est accompagné d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'il l'aide à se préparer, il lui met son turban, son casque et ensuite le turban sur le casque. Il met deux armures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont lui servir, comme on le verra plus tard. Il prend son épée et ensuite il sort auprès de l'armée qui est mobilisée. Et on a expliqué qu'il a formé, il a divisé l'armée en 3 bataillons pour aller vers Uhud. Il a divisé l'armée en 3 bataillons. Premier bataillon, c'est le bataillon de ce qu'on a appelé Al-Muhajirun. Il a mis les compagnons qui ont fait la hijra de Mecca vers le Médina dans un bataillon. Et à leur tête, il a nommé Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Et il a composé le deuxième bataillon des compagnons de Médine de la tribu des Aous. et il a nommé à sa tête Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu. Et le troisième bataillon, il est composé des compagnons de Médine, mais de la tribu, non pas des Haous cette fois, mais des Khazraj. Et il a nommé à sa tête le compagnon et poète Al-Hubab ibn al-Mundhir, radiyallahu anhu. Et on a commencé à s'intéresser la semaine dernière, on a posé une question. On a dit, on a souvent l'habitude, quand on étudie succinctement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec l'armée, ils sont partis à Uhud, et ensuite on s'arrête bien sur les détails de la bataille de Uhud, et ensuite on passe à autre chose. Et nous on voulait s'intéresser, puisque l'objectif aussi de notre façon de faire dans l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'aller dans le détail. Pourquoi d'aller dans le détail? Pour voir comment aussi les gens vivent ces événements qui sont devenus pour nous des événements historiques. Donc on va raconter une bataille comme on raconterait n'importe quelle bataille, dans n'importe quelle histoire, de n'importe quelle autre civilisation. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de s'intéresser aux familles, aux individus, pour voir en parallèle, dans leur vie familiale, dans leur individuelle, la vie ne s'est pas arrêtée. Et on s'est intéressé d'abord à la famille de compagnon Malik ibn Amr. C'est des gens qui sont impactés par la menace qui se dirige vers Médine, cette famille, la famille de Malik ibn Amr, radiyallahu anhu. Et donc, qui eux aussi sont mobilisés et qui s'inquiètent de ce qui va advenir de leur ville, de leur famille. Et en même temps, ce jour-là, le dernier jour à Médine, c'est le jour où il y a la janaza de leur père, Malik ibn Amr. Voilà aussi comment Allah Azza wa Jal éprouve ses fidèles serviteurs, ses adorateurs. Ils sont impactés par l'épreuve qui impacte et qui atteint toute la ville de Médine, par l'attaque imminente de la ville par les idolâtres, et d'un autre côté, ils sont aussi éprouvés et impactés par la mort de leur père Malik ibn Amr. Ensuite, on s'est intéressé à Hanzala ibn Abi Amir, radiyallahu anhu. Et on a dit, Hanzala ibn Abi Amir, lui, il est impacté par cette épreuve collective, comme tout le monde, mais lui, en parallèle, il n'était pas en train de vivre un événement triste. On a essayé de prendre différents exemples. Évidemment, on ne va pas faire toutes les demeures de Médine, sinon on n'a pas fini. On a pris l'exemple d'un décès ce jour-là, et on prend l'exemple d'un mariage aussi ce jour-là. C'est le mariage de Hanzala ibn Abi Amir. Et Hanzala ibn Abi Amir, alors que c'est son mariage, et alors que cette nuit-là, ce sera sa nuit de noces, quand il va entendre pendant la nuit que c'est tout, l'armée part, il va partir sans avoir eu le temps de se laver, de faire les ablutions majeures. Et donc il va partir en état de pollution nocturne, en état de janaba, et il va tomber en martyr dans la bataille de Uhud. Et il sera surnommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Rasilul Malaika, celui qui a été lavé par les anges. Rasilul Malaika. Naam. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Quel degré de foi et de détermination ils ont atteint? Et d'ailleurs, certains historiens disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné la permission de rester. Toi, c'est ton mariage. Khlas, on ne peut pas te faire ça. Reste. Tu n'es, entre guillemets, toi, tu n'es pas concerné par la guerre. Pas un jour comme aujourd'hui. Et pourtant, il ne se permet pas de prendre cette dérogation que lui a donnée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, c'est une épreuve pour lui, mais aussi pour l'épouse qu'il laisse derrière lui. Elle s'est mariée avec lui, elle l'a eu quelques heures, et ensuite elle perd son époux, qui tombe en martyr. Ensuite, on s'était arrêté là. On peut également citer Abdullah ibn Haram. Beaucoup l'appellent Abdullah ibn Haram, mais si on donne vraiment toute sa lignée, c'est Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu, qui est un des fidèle compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons de Médine de la première heure. Un des tout premiers de Médine à s'être converti à l'islam. Et Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu, il a aussi un fils qui est un des plus grands compagnons. À ce moment-là, il est jeune, son fils. C'est Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Il rapporte, d'ailleurs, il a rapporté, il a laissé beaucoup de hadiths. Souvent, on a des hadiths dans la chaîne de transmission. Selon Jabir ibn Abdillah, il a dit, j'ai entendu le professeur sallam dire, etc., etc. Donc, nous, on veut parler ici de qui? De Abdullah ibn Amr ibn Haram. Qui est un homme qui a son fils très jeune, Jabir ibn Abdillah. Et il a également le reste de la fratrie. Donc il a un garçon, on l'a cité, Jabir ibn Abdillah. Et le reste, ce sont des filles. Naam, des filles. Et pour la plupart, des petites filles. Et il faut savoir que Abdullah ibn Amr ibn Haram est endetté. Au moment où arrive la bataille de Uhud, au moment où on mobilise les gens pour la bataille de Uhud, il est endetté. Et quand on prend l'exemple de Abdullah ibn Haram, ça nous permet de voir que nous, on a pris l'exemple de ceux qui ont été éprouvés dans leur décès. En même temps, il y avait la bataille de Uhud. Celui qui vivait un moment de joie, de bonheur, le mariage, et en même temps, il y a la bataille de Uhud. Et on prend aussi l'exemple de quelqu'un, comme le compagnon Abdullah ibn Haram, il a des problèmes, comme n'importe qui pourrait avoir, des problèmes, des dettes. Il est endetté, il a beaucoup de dettes. Et il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants parce qu'il ne laisse que des filles derrière lui et un jeune garçon. D'ailleurs, une des versions dira qu'il va dire à son fils, on ne peut pas y aller à deux. C'est moi qui y vais. Et il va dire à son fils Jabir ibn Abdillah, toi tu restes. Parce que si on y va à deux, il y a un risque qu'on ne revienne pas tous les deux. Et une version dans le Bukhari nous dit, donc une version authentique, elle nous dit que Abdullah ibn Amr ibn Haram va venir voir son fils Jabir ibn Abdillah la nuit, la veille de la bataille de Uhud. Et il va lui dire, fils, je pars pour la bataille de Uhud. Et j'ai l'impression, je ressens, que je vais faire partie des tout premiers qui vont tomber en martyr dans cette bataille. Et tu sais que je laisse derrière moi tes sœurs, prends-en soin. Et tu sais également que j'ai des dettes. Si, comme je le ressens, je ne reviens pas, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour rembourser mes dettes. Amana, la lourde responsabilité qu'il laisse à son fils. Il y en a ses compagnons. Abdullah ibn Amr ibn Haram, il aurait pu dire, moi, j'aurais aimé participer à la bataille de Uhud, mais je ne peux pas. J'ai des filles, et en plus j'ai des dettes. Comment ça va? Je ne peux pas prendre le risque d'y aller. C'est une bonne raison, c'est une raison valable. Mais non. Et donc il s'en va. Et d'ailleurs sur le chemin, mais ça je ne vais pas vous le raconter tout de suite, on le verra plus tard, lorsqu'il va y avoir une trahison, je ne vous dis pas plus de détails, mais il va y avoir une trahison dans l'armée médinoise, il va avoir un rôle extrêmement important, mais un rôle bénéfique. Il y a une trahison qui va être fomentée par des hypocrites, mais la trahison elle aurait pu être bien plus grave si cet homme, Abdullah ibn Haram, n'était pas intervenu. Ça, on le verra plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos de Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu ? Et c'est son fils qui nous le raconte dans des versions authentiques. Il nous dit, déjà, la première version qu'on a citée, c'est quand il est venu le voir la veille, la nuit, et qu'il lui a dit, je pars et j'ai l'impression que je vais faire partie. Non. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jabir ? Il nous dit, Dans cette version, mon père a été le premier à tomber en martyr à Uhud. Plusieurs musulmans, plusieurs compagnons vont mourir à Uhud, mais le premier, selon Jabir ibn Abdullah, c'est son père. Abdullah ibn Amr ibn Haram. Le premier à tomber en martyr, à mourir à la bataille de Uhud parmi les Médinois, parmi les compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui. Le père de Jabir ibn Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et dans une autre version authentique, il nous dit lui-même, donc son fils, Jabir ibn Abdullah, « Lamma kana yawm Uhud » Avant cette version, il y en a une autre, pour qu'on voit les choses de manière chronologique. Dans une version également authentique, le compagnon Jabir ibn Abdullah, il dit « Laqiyani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman » فقال لي يا جابر لما أراك منكسرا. Un jour, le professeur sallam me croise juste après la bataille de Uhud. Et j'étais triste, affligé. Et le professeur sallam m'a dit, qu'ai-je à te voir ainsi, triste, abattu, munkasiran. Il a toutes les bonnes raisons d'être abattu. Son père est mort en martyr et il lui a laissé une amana, ses sœurs, ses petites sœurs, et il lui a laissé des dettes. Donc il dit, Istushhida abi. Mon père est tombé en martyr. Wa taraka li 'iyalan wa daynan. Et il m'a laissé des enfants et des dettes. Alors que lui, à l'époque, c'est encore un jeune homme. Il n'est même pas encore marié. Et j'ai déjà toutes les responsabilités de la vie qui m'accablent parce que mon père est tombé en martyr. Et là, le prophète lui dit « Afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak » Ne veux-tu pas que je t'annonce la bonne nouvelle de comment Allah a reçu, a rencontré ton père ? Il lui dit « Bala ya Rasulallah, si au messager d'Allah, dis-moi. » Il lui dit « ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب فاحيا الله اباك وكلمه كفاحا. Allah n'a jamais parlé à personne face à face, yani sans intermédiaire, sans barrière, sans être caché entre guillemets, invisible à cette personne. Mais ton père, Allah l'a fait revivre, donc dans l'au-delà. فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا. Et il lui a parlé sans barrière, yani sans être voilé, entre guillemets. وَقَالَ لَهُ. Et il a dit à ton père, يَا عَبْدِ تَمَنَّ أُعْطِكَ. Oh mon serviteur, demande ce que tu veux, je te le donne. Dis ce que tu veux, je te le donne en récompense. Version authentique. Il va répondre. Le professeur Hassim va dire, ton père, il a dit à Allah Azza wa Jal, An tuhiyani, tuhiyini, fa uqtala fi kathaniyatan. Allahu Akbar. Que tu me fasses revivre une seconde fois, afin que je puisse mourir pour toi encore une fois. Radiallahu anhu. Il a donné ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus cher, la vie. Il a laissé derrière lui ses filles et ses dettes. Il aurait pu demander à ce que il fasse quelque chose pour ses filles, à ce qu'il fasse quelque chose pour ses dettes. Non, il a demandé à pouvoir revivre encore ça, le fait de sacrifier ce qu'il a de plus précieux, sa vie, pour Allah Azza wa Jalla et pour la bonne cause. Tuhini fa uqtala fika thaniyata. Que tu me fasses revivre et que je puisse encore une fois mourir pour toi. La ilaha illallah. Non. Et Allah Azza wa Jalla Le prophète m'informe, Jabir ibn Abdullah, il dit, et Allah va lui répondre, سبق مني أن قلت أنهم إليها لا يرجعون. J'ai déjà dit pour ça que personne ne peut revenir sur terre. Quand quelqu'un meurt, il ne peut pas revenir. Donc ça, c'est pas possible. Et à ce moment-là, et pour ce compagnon, Abdullah ibn Haran, a été révélé le verset 169 de ce surat Ali Imran, qui dit ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية. Et ne crois pas que ceux qui sont morts en martyrs sont morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils goûtent aux subsistances, aux récompenses qu'Allah leur donne. Ils sont joyeux des récompenses dont Allah les comble. Non. Et selon cette version qui a été authentifiée, ce verset a été révélé à l'occasion de la mort en martyr de Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu. Et sa mort, comme on le verra, elle ne va pas être quelque chose de facile à recevoir pour Jabir ibn Abdullah. Il raconte dans une autre version aussi authentifiée. لما كان يوم أحد جاء بأبي مسجى وقد مثل به فأردت أن أرفع عنه الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع عنه الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a amené mon père juste après la bataille de Uhud et il était couvert. On l'avait recouvert d'un drap. Pourquoi ? C'est lui qui l'explique pourquoi. وَقَدْ مُثِلَ بِهِ. Parce qu'on l'avait mutilé. Maintenant, comme on va le voir, les idolâtres, sur le champ de bataille, ils vont s'amuser à mutiler tous les corps des compagnons qui sont tombés en martyr. Puisque, comme ils ont la victoire, c'est eux qui restent sur le champ de bataille après la bataille de Uhud. Pendant que les compagnons, comme on le verra, ils seront sur la montagne de Uhud. Et ils vont s'amuser à mutiler les corps, et on verra comment. Et donc le corps de son père est mutilé, et donc il dit فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ عَنْهُ الثَّوْبُ. J'ai voulu voir mon père, donc j'ai voulu lever le drap qu'on avait mis sur lui. فَنَهَانِ قَوْمِ. Et les gens m'en ont empêché, ils m'ont interdit de le faire. Mais c'était trop pour lui, il voulait le voir. Donc il a dit, j'ai réessayé encore une fois et ils m'ont encore empêché. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a découvert un petit peu mon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit qu'il insiste et que c'est un besoin pour lui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorde ce besoin. C'est-à-dire qu'il a compris à partir du moment où à plusieurs reprises on lui dit non, ne le fais pas. C'est peut-être une mauvaise image que tu vas garder, etc. Ton père a été mutilé. Il a entendu tout ça, il l'a compris, et même comme ça, il veut quand même. Khlas. Non. Et à ce moment-là, il nous dit Jabir ibn Abdullah, فَسَمِعَ بَاكِيَةً. Le professeur Hassan a entendu à ce moment-là une femme pleurer. فَقَالَ مَنْ هَذِهِ. Il a dit, qui est cette femme qui pleure? Au moment où il a découvert le corps de Abdullah ibn Amr ibn Haram, pour son fils, il n'avait pas remarqué le professeur Hassan, dans l'assemblée une femme, et elle s'est mise à pleurer. Et donc le professeur Hassan a dit, qui est cette femme qui pleure? Et on lui a dit, Urtu Amr, la sœur de Amr, c'est-à-dire la sœur de Abdullah ibn Amr ibn Haram, Fatima, radiyallahu anha. Fatima, bintu Amr ibn Haram. Et le professeur Hassan va dire, Walima tabki, pourquoi pleures-tu? فَلَزَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُضِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ. Sache que les anges n'ont cessé de le recouvrir de leurs ailes jusqu'à ce qu'il soit transporté pour la janaza. Dans une autre version, Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, toujours, il nous raconte que quand on a ramené son père, il dit, فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ الثَّوْبَ وَأَبْكِي. Je me suis mis à découvrir son visage pour le voir et j'ai pleuré. فَيَنْهَوْنِي. Et les gens m'ont refusé que je puisse faire ça, voir mon père, malgré qu'on l'avait mutilé, je voulais le voir. Ils ont refusé à ce que je puisse le voir. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَنْهَانِ. Quant au prophète صلى الله عليه وسلم, il ne m'a pas empêché de le faire. Donc ça rejoint, ces deux versions se rejoignent. Et le prophète صلى الله عليه وسلم ne m'a pas empêché, il ne me l'a pas interdit. Il dit, فَجَعَلَتْ عَمَّتِ فَاطِمَةِ. Et ma tante Fatima, donc la sœur de son père, Abdullah ibn Amr, ibn Haram, ja'alat tabki, elle s'est mise à pleurer. Faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tabkina aw la tabkin, pleure ou ne pleure pas. Fa innal mala'a fala zalat al mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh. Que tu pleures ou que tu ne pleures pas, ça revient au même. Parce que les anges continuent de le couvrir de leurs ailes, jusqu'à ce que vous le preniez pour l'enterrer. Et on aura l'occasion de reparler de Abdullah ibn Amr ibn Haram, radiyallahu anhu, comme je vous ai dit, sur le chemin, lorsqu'ils vont prendre la route du chemin, et qu'il va y avoir cette fameuse trahison, quel rôle il va jouer, quelle intervention il va avoir. Le dernier exemple qu'on peut prendre parmi toutes ces demeures de Médine, c'est l'exemple de quelqu'un qui était un proche de Abdullah ibn Amr ibn Haram. Son beau-frère. C'est le compagnon Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu. Amr ibn al-Jamuh, il est marié avec la sœur de Abdullah ibn Amr ibn Haram. Amr ibn al-Jamuh, dont on va parler maintenant, il est marié avec la sœur du compagnon dont on vient de finir de parler, Abdullah ibn Amr ibn Haram. Et donc ce compagnon, Amr ibn al-Jamuh, déjà, pour se rappeler de qui est ce compagnon, c'est un des compagnons les plus importants de Médine et il est le chef des Bani Salama. D'ailleurs, on dit à son sujet qu'il a choisi d'être, on l'a désigné comme chef parce qu'il était connu pour être le plus généreux de la tribu. À un tel point qu'on raconte que lorsque quelqu'un venait lui demander quelque chose, il disait « هذا مالي خذوه فإنه عائد غدا. » Voici mes richesses, prenez-les, servez-vous. Prenez tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez rien laisser, ne laissez rien. De toute façon, ça va revenir demain. Agis. Regarde sa philosophie. Il y a les Picsou et les Crésus. Il n'y a pas un centime qui va partir. Les Anahad, le centime, si je le donne, je l'ai perdu à tout jamais. Il y en a, ils réfléchissent comme ça. Les avares. Et les généreux, comment ils réfléchissent? Eux, ils disent, comme Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu, prends ce que tu veux. De toute façon, je sais que ça va revenir demain. Yani, ça rentre, ça sort. C'est comme ça, l'argent. Agis. Et c'est vrai, fil haqiqa. Quelqu'un qui est généreux, ça rentre, ça sort. Ça se vérifie. Par contre, celui qui est avare, il vérifiera aussi que lui, ça rentre pas, ça sort pas. En tout cas, ça sort surtout pas. Après, est-ce que ça rentre pas? À vérifier. Ça rentre. Pour un radin, pour un avare, ça rentre. Mais quand tu lui demandes, et quand tu vois comment il vit, tu as l'impression qu'il n'y a absolument rien qui rentre. L'imad, hein, parce qu'il est tellement radin qu'il a toujours peur de perdre quelque chose. Donc il ne se fait pas plaisir. Il ne fait pas plaisir aux gens qui sont autour de lui. Et donc certes, il amasse, il stocke. Quand il regarde le compte, mais quand tu le regardes comment il vit, le mode de vie, Donc au final, est-ce que vraiment ça rentre? À propos de qui tu peux dire que vraiment ça rentre? Quelqu'un qui les utilise, dans le bien, dans le halal, qui se fait plaisir à lui, qui fait plaisir à ses enfants, à ses proches, et alhamdoulilah. Donc en ce sens, on peut dire que d'abord ça sort pas parce qu'il est avare, donc il ne laisse rien sortir, et au final ça rentre pas. Parce qu'il ne fait que stocker, il n'en profite pas. Ni lui, ni les autres. Alors que le généreux, il a raison, comme le dit Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu, ça rentre, ça va revenir demain. Innahu a'idun ghad. Prenez-le, il va revenir demain. Gharib, yani, chauffe la philosophie. Ala kulli hal, pendant sa jahiliya, la cause de sa conversion à l'islam, ses fils, il avait quatre fils, dont on va reparler d'ailleurs. Ses fils se sont convertis à l'islam avant lui. Et leur père était plus que convaincu que la véritable religion, c'était la religion des idolâtres, les statues, les idoles. Et d'ailleurs, il en était tellement convaincu qu'il avait personnellement une idole. Il y avait des gens qui avaient des idoles, c'était une idole collective. Dans le village, dans la tribu, il y avait une idole, on allait autour de cette idole et on lui faisait des offrandes, etc. On adorait cette idole. Lui, il avait chez lui une idole, une statuette, qui s'appelait Manaf, qu'il adorait, qu'il implorait, qu'il invoquait. Et ses fils, comme ils voyaient que leur père ne voulait rien entendre, et ils n'arrivaient pas à le convaincre, ils ont eu une idée. Et ils étaient très jeunes. Et ils ont dit, on va attendre la nuit et on va s'occuper de sa statue, de son idole. Ils ont pris la statue qui était vénérée, implorée par leur père, Manaf, et ils l'ont jetée dans une fosse où les gens de la tribu avaient l'habitude de jeter leurs ordures, les choses dont ils n'ont plus besoin, les choses sales, etc., les souillures. Ils les jetaient dans cette fosse.
Une décharge.
Et ils l'ont mis dans cette décharge. Au début, ils se sont dit, on va le jeter, on va le faire disparaître, pour que notre père arrête, parce qu'ils voyaient leur père se prosterner devant une statue. C'était trop pour eux. Et quand il va se réveiller le matin, Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu, il va chercher son idole. Il ne la trouve pas. Et finalement, on va la découvrir dans cette fosse et on va lui dire, il y a ton idole qui est dans la fosse, dans la décharge. Et donc il va y aller, et donc elle est toute sale, elle a été souillée par les saletés, etc. Il la reprend, il la lave, il la nettoie, il la parfume, et il la remet à sa place. Et il dit, je ne sais pas qui a fait ça, mais ce n'est pas normal. Et il commence à avoir des doutes, parce qu'il se dit, cette statue quand même, et ses fils l'aident à avoir ses doutes. Et il lui arrivait quoi à ta statue? Ah bon? Mais il ne s'est pas défendu. Parce que toi, tu lui demandes tous les jours qu'il t'aide. Mais est-ce qu'il s'est aidé lui-même déjà quand il s'est retrouvé dans la fosse? Hein? C'est laissé faire. Bizarre quand même, hein? Pour un Dieu tout-puissant qu'on adore et qu'on vénère et qu'on implore. Et donc, il leur dit, taisez-vous, blasphème. Mais l'idéal commence à faire son chemin à l'intérieur de lui. Au début, il a du mal à l'admettre, mais à l'intérieur de lui, ça commence à... Et chaque nuit, ses fils réitéraient leur crime. Ils se débrouillaient pour prendre la statue et la jeter à la décharge, à la fosse. Et donc, c'était devenu une habitude, il l'a retrouvée là-bas. Elle disait, je ne sais pas qui fait ça, mais ce n'est pas normal. Et un jour, qu'est-ce qu'il décide de faire? Parce que là, l'idéal a vraiment fait son chemin. Il dit, ce n'est pas normal, lui aussi, qu'il ne se défende pas. C'est un dieu. Moi, je lui demande tous les jours de me défendre. J'ai l'impression qu'il le fait. Sinon, je ne lui demanderai pas, mais il n'est pas capable de se défendre lui-même. Peut-être parce qu'il n'a pas d'arme pour se défendre. Il prend une épée. C'était à ce point-là, Yann. Et il l'a mis autour de son cou. Autour du cou de l'idole. Voilà. S'ils viennent, maintenant, tu es armé. Et donc, évidemment, l'idole, elle va se retrouver quand même, malgré tout, dans la décharge. Et l'épée, elle reste à sa place. Et donc, lui, il trouve l'épée, il trouve pas l'idole, il va voir la décharge. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé, c'est une des grandes causes qui a fait qu'il s'est soumis à l'islam, qu'il s'est converti à l'islam. Naam. Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu. Et Amr ibn al-Jamuh, au moment où arrive la bataille de Uhud, c'est un vieil homme, malade et qui boite. Il boite. Il est vieux. Il est malade et il boite. Et toutes les batailles qu'il y a eu avant ou les expéditions qu'il y a eu avant, à chaque fois, malgré sa vieillesse, malgré sa maladie, Malgré le fait qu'il boite, il voulait y aller. Et ses fils, il a 4 fils adultes, en âge adulte, refusaient. Ils lui disaient non. T'es vieux, tu bois, t'es malade. C'est pas possible. Et il leur disait, pourquoi? Vous avez peur que je meure? Mais je veux y aller pour ça. Je veux y aller pour obtenir cette récompense. Et donc à chaque fois, ils lui refuseront jusqu'à ce qu'arrive la bataille de Uhud. Encore une fois, ils vont lui dire non. Tu es malade, tu es vieux, non. On ne peut pas te permettre d'y aller. Et il va leur dire, « Inni uridu an ata'a bi'arjati hadhihi fil jannah. » Je veux marcher en boitant dans le paradis comme je le fais sur terre. Et vous pouvez, cette fois, vous ne m'en empêcherez pas. Et donc, il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, et lui explique son affaire. À chaque fois, j'ai voulu. Et à chaque fois, mes fils m'en ont empêché. Et une fois de plus, maintenant, ils m'en empêchent.
Et si c'est pas là?
Non. Et le professeur sallam lui autorise. Donc le professeur sallam entre guillemets, lui ouvre les yeux. Tu sais qu'il y a un risque, tu sais. Il dit, c'est justement ce que je veux. C'est cette récompense que je demande. Le professeur sallam dit à ses fils, ça fait plusieurs fois que vous l'en empêchez, à juste titre. Mais votre père a toute sa tête et il sait c'est quoi le risque et il le réclame, ce risque. Laissez-le.
Et Amr
ibn al-Jamuh, radiyallahu anhu, lui aussi, comme on le verra, fera partie de ceux qui vont tomber en martyr à la bataille de Uhud. Et selon certaines versions, il va, on le verra, pour les morts de Uhud, il n'y aura pas assez de linceul. Et donc, les compagnons seront mis par deux dans le même linceul. Et même les linceuls qu'on va donner pour deux compagnons, ils seront pour certains trop petits. Afouane, c'est dans les tombes qu'on les mettra par deux. Et même dans les linceuls seront trop petits, c'est-à-dire, comme on le verra, le linceul, si on couvre la tête avec, les pieds apparaissent. Et si on couvre les pieds, c'est la tête qui apparaît. Donc ils vont avoir ce dilemme. On le verra plus tard. Non. Et on dit, en tout cas les historiens disent que Amr ibn al-Jamuh et son beau-frère dont on a parlé tout à l'heure, Abdullah ibn Amr ibn Haram, seront enterrés dans la même tombe. Non, mais ça, on en reparlera. Et on s'arrête là pour les exemples sur les demeures de Médine, les familles de Médine, comment ils appréhendent tout ça, puisqu'on a dit que c'était juste pour donner quelques exemples, mais c'est pour nous faire prendre conscience que lorsqu'on parle de cette mobilisation, etc., chacun a son histoire avec cette épreuve collective. C'est l'épreuve qui est la même pour tout le monde. Notre ville est attaquée. Nos enfants, nos familles vont être attaqués. On risque tous de perdre la vie. On doit défendre notre ville. On doit défendre notre liberté religieuse et celle des autres, parce que c'est toujours ça l'objectif. Mais en même temps, chacun a des choses qui se passent dans sa vie. Il y en a qui se marient, il y en a qui ont des décès, il y en a qui ont des problèmes financiers, etc., etc. Et à présent, on va s'intéresser, et c'est sur ça qu'on terminera, à une question, c'est et les autres, ceux qui ne sont pas musulmans et qui vivent à Médine. Parce que nous, on avait déjà expliqué que lorsque le prophète sallam arrive à Médine, il y a de tout à Médine. Il y a toute petite minorité chrétienne, il y a plusieurs tribus juives, il y a des musulmans de la Mecque et des musulmans de Médine, il y a des bédouins, il y a des idolâtres, et le prophète sallam a mis en place des règles, des lois qui font en sorte que tout le monde peut vivre dans cette ville cosmopolite, avec des cultures, des religions différentes. Et il a fait en sorte que, à partir de ces règles, chacun se respecte et chacun puisse vivre en paix et en harmonie. Et donc la question à laquelle on s'intéresse, c'est comment vont réagir les autres, en particulier les tribus juives, puisqu'ils ont des pactes d'alliance et de vie en harmonie avec le professeur Salem, et aussi ils ont un devoir de secours mutuel. Et donc, ici, pour répondre à cette question, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun texte authentique, sahih, sur lequel on peut se référer pour dire voilà quelle a été la position ou voilà quelle a été l'ordre. Il n'y a que des narrations historiques et aucune d'entre elles, à ma connaissance et selon les humbles recherches que j'ai faites, qui n'ont été authentifiées. Mais on peut citer, et en fait grosso modo, eh bien on a plusieurs tribus juives et chaque tribu comment elle a réagi, et chaque individu comment il a réagi selon ces narrations historiques qui ne sont pas authentiques, donc on peut même pas affirmer ça.
C'est impossible de le dire.
Mais en tous les cas, il y aurait eu, selon ces différentes versions, plusieurs façons de réagir. On a par exemple une version non authentifiée qui nous dit qu'au moment où le professeur sort et qu'il atteint les portes de Médine, la sortie de la ville de Médine, il y a tout un bataillon armé qui l'attend. Et le professeur Hassan dit, mais qui sont ces gens qui nous attendent? Et on lui dit, c'est la tribu juive, une telle, qui viennent se joindre à nous parce qu'ils disent, nous avons conclu avec le prophète un pacte qui nous dit que nous sommes... que vous êtes obligés de nous défendre si nous sommes attaqués, et que nous aussi, en échange, on vous défend si vous êtes attaqués. Et selon cette version, cette narration historique qui n'est pas authentifiée, le professeur Salem leur aurait dit, puisque j'utilise le conditionnel, puisque je vous ai dit que ce n'est pas authentique, il leur aurait dit, ça n'est pas nécessaire. Il les a remerciés, mais on n'a pas besoin de vous. Et vous avez rempli votre devoir, las. Rentrez chez vous. En faisant ça, vous avez rempli votre devoir. Et vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Non. On a une autre version qui nous dit que les Bani Nadir auraient refusé catégoriquement de soutenir les musulmans dans cette menace. Encore une fois, c'est une version qui n'est pas authentifiée. Et on a une version toujours non authentifiée qui nous dit que les Bani Quraïda, quant à eux, ils vont être neutres. Ils vont faire appel à leur neutralité, ils vont dire nous ne sommes pas concernés par ce conflit. On n'est ni pour ni contre. On n'est pas concernés. Et on a, dernier exemple sur les différentes positions qu'il y a pu y avoir, des positions individuelles. Selon ces versions non authentifiées. Vous allez dire, arrête pas de le répéter, lui. Par honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas affirmer que ces choses sont vraiment arrivées. Et c'est pour ça que je le répète et répète et répète. Selon cette version non authentifiée, il y a un homme qui s'appelle Mukhayriq, qui lui, entre guillemets, il va en faire qu'à sa tête et il va accompagner l'armée. Et il va aller jusqu'à combattre dans l'armée de Uhud, et selon cette version non authentifiée, il aurait perdu la vie, il aurait été tué à la bataille de Uhud par les idolâtres. Parce qu'il aurait été jusqu'au bout de l'engagement. Même si le professeur Hassan leur a laissé le choix de repartir, lui, il aurait, selon cette version, voulu aller jusqu'au bout. À un tel point que, selon cette version, le professeur Hassan aurait dit à son sujet, « Mukhayriq khayru Yahoud ». Mukhayriq fait partie des meilleurs des juifs. Des meilleurs parmi les juifs. Comme le professeur Sam avait l'habitude de dire, telle femme fait partie des meilleurs parmi les femmes, tel compagnon de Médine fait partie des meilleurs parmi les compagnons de Médine. Le professeur Sam le dit à propos de Mukhayriq. Non. Et ensuite, après avoir vu tout ça, on peut dire à présent que le professeur Sam décide de partir pendant la nuit, vers la fin de la nuit, entre vendredi et samedi. Pourquoi il décide de partir à ce moment-là? Parce que il sait que les ennemis sont pas loin, autour de Médine, qu'ils campent, et donc ils doivent être en train de se reposer, de dormir. Donc c'est le moment où ils vont être le moins au courant de que le professeur Hassan quitte la ville de Médine, parce que ça, ils ne le savent pas encore, les idolâtres. Est-ce qu'il va rester dans la ville? Est-ce qu'il va venir à leur rencontre? Ça, ils ne le savent pas encore. Et comme c'est la nuit, peut-être que les informateurs, ils auront plus de mal aussi à savoir par où ils se dirigent pour aller à la rencontre de l'armée des idolâtres. Et donc, c'est ce choix que le prophète Hassan fait. Et il laisse derrière lui, comme il avait l'habitude de le faire, à chaque fois, il laissait un compagnon derrière lui qui devait, entre guillemets, gérer les affaires courantes de la ville, comme présider la prière, gérer les conflits s'il y en avait, etc. Bref, gérer les affaires. Le prophète Hassan gérait les affaires de la ville. Et donc, c'est un chef. Et donc, quand il quitte la ville et qu'il s'absente, il doit nommer un remplaçant à sa place. Et il nomme qui Ibn Ummi Maktoum. C'est qui Ibn Ummi Maktoum? Ibn Ummi Maktoum, c'est un des mu'adhin. Il y a Bilal qui fait l'adhan et il y a Ibn Ummi Maktoum. Ibn Ummi Maktoum, c'est un mu'adhin de la Mecque qui est aveugle. Et donc, lui, il ne va pas à la bataille de Uhud parce qu'il est aveugle. Et le prophète lui dit, c'est toi qui géreras ma place. De toute façon, c'est toi qui fais l'adhan. Donc, tu rajoutes la prière avec, tu présides la prière. Non. Et le prophète part. Il part. Et quand il va arriver à un endroit qu'on appelle Ashwat, alors d'abord, il y a deux choses qui vont se poser. La première, c'est le prophète Hassan, il faut qu'il choisisse une stratégie pour sortir de la ville de Médine. Et l'armée idolâtre campe autour de Médine. Et c'est une grande armée, donc ils sont dispersés. Il y a un campement par ici, un campement par là, un campement par là. Donc par là où passe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vu, entre guillemets. Et donc il faut qu'il arrive à faire déplacer une armée, à ce moment-là, de 1000 hommes, sans être remarqué par tous ces différents campements de l'armée idolâtre. Et donc comment il va remédier à ça? Et au moment où il va sortir, alors qu'il arrive à trouver la solution de comment remédier à ça, une trahison va avoir lieu, va se dérouler dans l'armée médinoise. Mais ces deux sujets, c'est ce que nous aborderons et c'est ce que nous verrons la fois prochaine, bidnillahi tabaraka wa ta'ala. بارك الله فيكم في فترة التنصص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك